Nous vivons dans une société bruyante, qui est constamment en mouvement, et où la grande majorité de la population cherche avant tout à se distraire et à s'amuser un maximum. Ce comportement qui permet d'oublier sa condition présente est révélateur de l'état d'esprit de l'homme moderne. Il indique une certaine fatigue de vivre et le refus de réfléchir aux grandes questions. D'où je viens? Qu'y a-t-il après la mort? Et à quoi sert ma vie? Je continue de lire dans le premier chapitre du livre du prophète Agée. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Littéralement, fixez votre cœur sûr. Cette exhortation apparaît 4 autres fois dans ce petit livre. Ici, Agée demande aux Israélites de réfléchir, d'examiner et de bien considérer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont souffert, leurs projets et ses conséquences. En d'autres mots, ils doivent impérativement se remettre en question pour l'avenir et modifier leurs priorités pour donner la prééminence à l'Éternel. Ce n'est pas facile à un être humain de se rendre compte qu'il est sur une mauvaise pente ou une voie de garage qui mène nulle part, parce que la plupart des êtres humains ont des œillères et n'en font qu'à leur tête. Un proverbe dit « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. » Le prophète Ésaïe écrit « Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Nous fonctionnons à l'aveuglette. Nous vivons avec des fausses valeurs et des priorités inversées. Nous cherchons une satisfaction immédiate à presque n'importe quel prix. Et ne prenons pas en compte qu'un jour, nous mourrons. Comme si ça n'arrivait qu'aux autres. Tout le monde ou presque pense à la retraite. Mais qui se soucie de l'au-delà et de l'éternité? Pourtant, et comme l'écrit Montaigne dans ses essais, tous les jours vont à la mort. Le dernier y arrive. Et dans Le dépit amoureux, Molière fait dire à l'un de ses personnages « On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. » A priori, cette boutade est drôle, mais si on y réfléchit, elle est plutôt terrible. Comme à l'armée, de temps en temps, il est utile de faire une revue de détails, et le ménage, ouvrir tous les placards, et en faire sortir les squelettes, puis tout désinfecter. Voilà pourquoi chaque être humain devrait évaluer ses voies, son parcours présent à la lumière de l'éternité, puis prendre les mesures qui s'imposent, changer radicalement son échelle de valeur en acceptant la grâce que Dieu lui accorde en Jésus-Christ. Dans le psaume 1er, il est dit « L'Éternel prend en compte la voie suivie par le juste, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. » Et le prophète Ésaïe écrit « Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Alors il sera paré pour le grand voyage. » Dans la fable « La mort et le mourant », La Fontaine écrit « La mort ne surprend le sage, il est toujours prêt à partir. » Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus mentionne pour l'homme 2 chemins très différents. Je lis le passage. Entrez par la porte étroite, en effet, large, et la porte est facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte, et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui les trouvent. La porte et le sentier qui mène à la vie sont étroits, dans le sens qu'il n'y en a pas d'autre. Jésus est le seul chemin, la seule vérité. Cependant, Ce tout petit sentier mène à la vie riche déjà ici-bas et à la vie éternelle dans l'au-delà. Jean rapporte que Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondance. » Je continue le livre d'Agée. « Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. » La bourse trouée évoque des piètres résultats par rapport aux efforts fournis. Comme l'insuffisance des produits agricoles entraîne une hausse des prix, le peuple n'a pas assez d'argent dans sa bourse pour couvrir ses besoins élémentaires en vituailles et en habillement. Les carences alimentaires occasionnent des troubles physiques et on devient aussi plus sensible au froid. Comme en plus, il semble que les hivers soient rudes, les vêtements et couvertures que les colons juifs possèdent sont insuffisants à les protéger des rigueurs hivernales. On peut se demander pourquoi ils sont dans une telle détresse. Eh bien, la raison est simple, car l'une des malédictions prévues dans les causes de l'alliance de la loi est qu'en cas de révolte contre l'Éternel ou de désobéissance envers lui, la récolte sera insuffisante, voire même non existante. Dans les livres du Lévitique et du Deutéronome, l'Éternel dit « Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. Vous semerez beaucoup de grains dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes, car les sauterelles auront tout dévasté. Vous planterez des vignes et vous y travaillerez, mais vous n'en boirez pas le vin, et vous n'aurez rien à y récolter, car les chenilles auront tout dévoré. » De toute évidence, les conditions économiques désastreuses qui affligent les colons juifs ne sont pas un mauvais coup du sort où la faute a pas de chance, mais un jugement de Dieu. Moi aussi, quand je me trouve dans une mauvaise passe, j'ai tendance à blâmer les circonstances, mais c'est de l'incrédulité pure de ma part, parce que c'est Dieu qui est non seulement le maître des lieux, mais aussi qui dirige des événements à sa guise. S'il me faut absolument accuser quelqu'un, je suis obligé de pointer le doigt en direction du ciel, car c'est le Seigneur du ciel et de la terre qui est responsable de tout ce qui arrive dans ma vie et dans le monde. Le prophète Ésaïe écrit « J'ai fermé la lumière et créé les ténèbres. Je donne le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, l'Éternel qui fait toutes ces choses. Je t'ai fait fondre, mais non pour en retirer de l'argent. Oui, je t'ai éprouvé au creuset du malheur. » Les Israélites ont la mémoire courte, car de toute évidence, ils ont mis en veilleuse le souvenir de leurs ancêtres qui sont morts, soit partis en exil, pour ne pas avoir prêté attention aux menaces de la loi. Par exemple, dans le Deutéronome, on lit « Si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, vous donnerez naissance à des fils et des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'en iront en captivité. » En négligeant le service de Dieu, en se désintéressant au temple, en ruine, et en ne se souciant que d'eux-mêmes, les colons juifs se sont rendus coupables, ce qui a entraîné la détresse du pays de Juda tout entier, ce qui est une catastrophe. Ils ont gagné de gros lots, ils ont de belles maisons, mais rien à manger, ou très peu, parce qu'ils ont choisi d'ignorer le grand principe qui doit gouverner le peuple de Dieu, honorer l'Éternel dans sa vie. Matthieu rapporte que Jésus a rappelé cette vérité fondamentale quand il a dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas Que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je continue de lire le texte d'Angers. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Ici encore, Agée dit littéralement « Fixez votre cœur sur vos voies ». Cette répétition sert évidemment d'emphase. Comme nous avons le cœur dur et l'esprit engourdi, la plupart d'entre nous ont besoin d'entendre plusieurs fois les mêmes exhortations, avant qu'elles ne soient enregistrées et surtout mises en pratique. Je continue. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Dans un premier temps, le Seigneur a demandé à son peuple de réfléchir à ce qui lui arrivait, à considérer ses voies, à prendre à cœur sa façon de vivre coupable. Il l'a réprimandé pour ne pas avoir agi comme il aurait dû en rebâtissant le temple, et lui a montré la futilité de ne se préoccuper que de ses propres affaires en se construisant de belles villas. Maintenant, le Seigneur indique aux colons juifs la marche à suivre pour obtenir sa bénédiction. Trois actions leur sont demandées. Allez à la montagne, couper des arbres et les rapporter, puis rebâtir la maison de Dieu. Comme les pierres de l'ancien temple sont, semble-t-il, toujours utilisables, les colons juifs n'ont besoin que de bois. Ce passage sous-entend que, pour construire leur villa, ils ont pioché dans les cèdres destinés au temple, cèdres que les Phéniciens leur avaient livrés. On comprend mieux pourquoi Dieu est très irrité par leur comportement. Les arbres que les Israélites doivent aller couper se trouvent à la montagne. Mais il ne s'agit pas du mont sur lequel, sous la direction de Zorobabel et Josué, le peuple a commencé à rebâtir le temple 18 ans plus tôt. Dieu ne leur a pas demandé non plus de partir pour le Liban ou une lointaine contrée. La montagne est un terme générique qui désigne toutes les collines boisées qui entourent Jérusalem, et en particulier les forêts impériales qui se trouvent à proximité de la ville. Dans le livre de Néhémie, on lit que plus tard, cet homme prend en main la reconstruction des murailles de Jérusalem et dit avoir demandé à l'empereur une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai. Donc, ce ne sont pas les arbres qui manquent, mais encore faut-il grimper sur les hauteurs pour les chercher. Puis il faut les couper, les descendre jusqu'au mont du temple et enfin les débiter pour en faire des planches et des boiseries décoratives. Dieu ne demande pas à son peuple des offrandes coûteuses, mais un esprit bien disposé, prêt à retrousser ses manches et à utiliser ce qui est disponible et à la portée de la main. L'un des enseignements de la prophétie d'Agée est que la volonté de Dieu pour les hommes est qu'ils travaillent. Il a dit à notre ancêtre Adam, « Oui, du sol, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. » La fainéantise enrobée de platitudes pieuses du genre « Le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti » ne convient pas à ceux qui se disent le peuple de Dieu. On retrouve cette apathie dans la maladie. En effet, quand je ne me sens pas dans mon assiette, je voudrais que Dieu me guérisse tout de suite, comme ça par enchantement. » Ce qui en réalité est une façon de protester contre cet accroc à mon emploi du temps. De plus, la maladie me rappelle ma condition humaine misérable. Et puis, j'ai pas envie d'aller voir le médecin, ni de faire des examens, ni de prendre des médicaments, ni d'interrompre mon train-train quotidien. Alors, je veux un miracle, incessamment sous peu, et même avant. Dieu dit donc aux colons juifs de retrousser leurs manches, de se mettre au boulot et d'y aller de bon cœur. Il nous demande la même chose. Avec un collègue, nous avons œuvré à l'implantation d'une église et puis, avec le temps, la salle que nous prêtait la ville est devenue trop étroite. Alors nous avons lancé un projet de rénovation d'un bâtiment. Or, parmi les membres de l'assemblée, il y en avait plusieurs qui venaient au culte, mais à part ça, ils étaient très discrets et presque sur la touche. Par contre, dans le hasard de Dieu, ils avaient les talents requis pour s'occuper de la restauration du bâtiment. Nous leur avons soumis le projet, ils s'en sont emparés avec autant de vivacité et d'empressement qu'une truite prend la mouche. Depuis les plans jusqu'à l'organisation et la réalisation des travaux. Ils se sont occupés de tout. En mettant ses dons au service du Seigneur et en travaillant de tout son cœur. On est tout autant spirituel que ceux qui sont à l'aise devant un micro. Dans le même ordre d'idées, l'Éternel demande aux Israélites de renoncer à donner des excuses et de se consacrer à lui en se mettant au travail selon leurs talents et possibilités. S'ils obéissent à la volonté, l'Éternel dit qu'ils y trouveront du plaisir. Une formule qui, lorsqu'elle est appliquée à Dieu, fait partie du langage cultuel et décrit l'approbation divine d'une action humaine. Non seulement l'Éternel trouve agréable de voir son peuple œuvrer pour lui, mais il ajoute « J'en serai glorifié ». Cela signifie que Dieu a l'intention d'étendre sa bénédiction sur le temple et sur les bâtisseurs, de façon à ce que les Israélites et leurs voisins reconnaissent que l'Éternel est au milieu de son peuple et le seul vrai Dieu. Soit dit en passant, et pour la petite histoire, que les Massorètes qui ont édité le texte hébreu traditionnel indiquent en marge une autre vocalisation pour « j'en serai glorifié », ce qui donne « je le glorifierai » en parlant du temple. Cette différence tient au fait que l'hébreu de l'Ancien Testament ne possède pas de voyelles. Cette particularité permet parfois deux, voire même plusieurs traductions du même mot et donc différentes interprétations possibles de la même phrase. Je continue le texte d'Agée. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous avez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait ? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon peuple est en ruine, parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. C'est l'indifférence des Israélites envers le temple en ruine qui les conduit à la pauvreté. Ici, le jugement qu'ils ont subi est répété, mais avec davantage de précision. Premièrement, les colons juifs ont si peu conscience de leur culpabilité vis-à-vis de l'Éternel que c'est en toute bonne conscience qu'ils se croient en droit d'attendre la bénédiction et les fruits de leur travail. Mais alors qu'ils attendent beaucoup, ils reçoivent très peu. Les années passent, mais la rentabilité des champs et des arbres reste très faible. Les Israélites sont en voie de répéter la conduite de leurs ancêtres que le prophète Ésaïe avait menacé en leur disant « Le Seigneur des armées célestes m'a parlé et m'a dit « Ces nombreuses maisons deviendront en ruine. ces maisons grandes et superbes seront inhabitées, car 10 arpents de vigne ne produiront qu'un tonnelet de vin, et 10 mesures de semences n'en donneront qu'une de blé. Malgré la disette, les colons juifs n'ont pas envisagé que leur détresse vient d'en haut, que leurs malheurs sont la juste rétribution de leur faute, et que cette situation durera aussi longtemps que leur insouciance à l'égard de la volonté de Dieu qui veut qu'il rebâtisse sa maison, c'est-à-dire le temple. Deuxièmement, dit Agée, l'Éternel souffle sur le peu qu'ils engrangent. La maigre récolte que les Israélites ont serrée dans leur grenier disparaît comme par enchantement ou comme si elle était emportée par le vent. Elle s'est volatilisée en un clin d'œil et ils n'ont pas pu en profiter, soit à cause de la mauvaise qualité des produits, soit à cause des ravages dus aux insectes. Il est clair, d'après le texte, que, au lieu de discerner un châtiment divin, les colons attribuent leurs échecs agricoles répétés à des phénomènes naturels. Le prophète Agée leur dit la vérité, et il enfonce le clou dans leur âme et conscience en ajoutant « Pourquoi donc l'ai-je fait ?» demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis il répond lui-même à sa question en disant avec l'autorité de Dieu « Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. » Cette raison déjà donnée précédemment est répétée et soulignée. Les Israélites se désintéressent de la condition misérable de la maison de Dieu, tandis qu'ils consacrent leurs ressources et leur temps à embellir leur demeure et à s'occuper de leurs propres affaires. Mais c'est oublier que l'objectif principal de leur retour en Palestine est la restauration du temple. En effet, le décret royal dit « Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? L'Éternel, leur Dieu, sera avec eux. Qu'ils partent !» Quelques-uns sont bien partis, mais tout reste encore à faire, et c'est au pied du mur qu'on voit le maçon.